Chapitre 30. Révélation divine concernant l'avenir. Les ressources de la grâce de Dieu. Ce chapitre est du plus profond intérêt. Il est prophétique et nous présente quelques-unes des choses cachées auxquelles il est fait allusion à la fin du chapitre précédent. Il révèle les précieuses ressources renfermées dans le cœur de Dieu et qui se déploieront quand Israël, ayant manqué entièrement à garder la loi, sera dispersé jusqu'au bout de la terre. Et lorsque toutes ces choses que j'ai mises devant toi seront venues sur toi, la bénédiction et la malédiction, et lorsque tu les auras rappelées dans ton cœur, parmi toutes les nations où l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, et que tu seras retourné à l'Éternel, ton Dieu, et que tu auras écouté sa voix, selon tout ce que je te commande aujourd'hui, toi et tes fils, de tout ton cœur, et de toute ton âme, il arrivera que l'Éternel, ton Dieu, rétablira tes captifs et aura pitié de toi. Et il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples où l'Éternel, ton Dieu, t'avait dispersé. Versets 1 à 3. Il n'est pas question ici d'observation de la loi, mais de quelque chose d'infiniment plus profond et plus précieux. C'est le retour du cœur tout entier à l'Éternel dans un temps où l'obéissance littérale à la loi sera devenue impossible. C'est un cœur brisé et contrit qui se tourne vers Dieu, et Dieu qui le reçoit dans ses profondes compassions. Telle est la vraie bénédiction en tout lieu et en tout temps. C'est quelque chose qui est au-dessus de toutes les dispensations. C'est Dieu lui-même, dans toute sa plénitude et son ineffable grâce, recevant une âme repentante. Et nous pouvons dire en vérité que lorsque cette rencontre a lieu, tout est divinement et éternellement réglé. Il doit être parfaitement évident pour le lecteur que ce que nous avons maintenant sous les yeux est quelque chose d'aussi éloigné de l'observation de la loi et de la justice de l'homme que le ciel l'est de la terre. Le premier verset de notre chapitre montre que le peuple d'Israël est envisagé là dans une condition telle que la mise en pratique des ordonnances de la loi était une impossibilité. Mais, béni soit notre Dieu, il n'y a pas d'endroit si reculé sur toute la surface de la terre d'où le cœur ne puisse se tourner vers Dieu. Si les mains ne pouvaient présenter la victime à l'autel, si les pieds étaient incapables de marcher jusqu'au lieu désigné pour le culte, le cœur, néanmoins, pouvait aller jusqu'à Dieu. Oui, le cœur meurtri, brisé, contrit, pouvait aller directement à Dieu. Et Dieu, dans ses compassions et dans sa tendre miséricorde, pouvait venir au-devant de ce cœur, bander ses plaies et le remplir des riches consolations de son amour et de la joie de son salut, jusqu'à le faire déborder. Mais écoutons davantage de ces choses cachées qui sont à l'Éternel, choses précieuses au-delà de toute pensée humaine. Quand tes dispersés seraient au bout des cieux, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là et te prendra de là. Et l'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que tes pères ont possédé et tu le posséderas et il te fera du bien et il te rendra plus nombreux que tes pères. Versets 4 et 5. Ces paroles sont bien précieuses, mais il y a quelque chose de meilleur encore. Non seulement l'Éternel les rassemblera, les ramènera et les multipliera. Non seulement il agira en puissance en leur faveur, mais il opérera en eux une puissante œuvre de grâce. Et cela a une valeur bien plus grande qu'aucune prospérité extérieure. Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta semence pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Et l'Éternel, ton Dieu, mettra toutes ses malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent, qui t'ont persécuté. Et toi, tu reviendras, et tu écouteras la voix de l'Éternel, et tu pratiqueras tous ses commandements que je te commande aujourd'hui. Versets 6 à 8. Quelle bénédiction peut surpasser celle-là pour un peuple sur la terre? Un peuple rassemblé, ramené, multiplié, béni, circoncis de cœur, entièrement dévoué à l'Éternel et obéissant de bon gré à tous ses commandements. le cœur et la bouche. Et l'Éternel ton Dieu te fera surabonder en prospérité dans toute l'œuvre de ta main, dans le fruit de ton ventre, et dans le fruit de tes bêtes, et dans le fruit de ta terre. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir en toi, pour ton bien, comme il a pris plaisir en tes pères. Car tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts, ce qui est écrit dans ce livre de la loi, quand tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Car ce commandement que je te commande aujourd'hui n'est pas trop merveilleux pour toi, et il n'est pas éloigné. Il n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera pour nous dans les cieux et le prendra pour nous, et nous le fera entendre, afin que nous le pratiquions ?» Car la parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour la pratiquer. Versets 9 à 14. Ce passage est particulièrement intéressant. Il donne la clé de ces choses cachées auxquelles nous avons déjà fait allusion et met en avant les grands principes de la justice divine en contraste avec la justice légale. Selon la vérité révélée ici, peu importe où l'âme se trouve, la parole est très près de toi. Elle ne pourrait être plus près, car elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Il n'y a pas un mouvement à faire pour l'atteindre. Si elle était au-dessus de nous ou au-delà, nous pourrions nous plaindre de notre incapacité de l'atteindre. Mais il n'en est pas ainsi. Nous n'avons besoin ni de nos mains, ni de nos pieds dans cette affaire si importante. Le cœur et la bouche seulement sont ici appelés à agir. Il y a une belle allusion à ce passage dans le chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Frères, le souhait de mon cœur et la supplication que j'adresse à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance. Car, ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. Car Moïse décrit la justice qui vient de la loi. L'homme qui aura pratiqué ces choses vivra par elles. Mais la justice qui est sur le principe de la foi parle ainsi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel ? C'est à savoir pour en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est à savoir pour faire monter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons, savoir que, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car du cœur on croit à justice, et de la bouche on fait confession à salut. Car l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Romains 10, versets 1 à 11. Remarquez le mot « quiconque ». Il comprend assurément le juif. Cette parole s'adresse à lui, pauvre, exilé où qu'il soit, aux extrémités de la terre, dans des circonstances où l'obéissance à la loi, comme telle, est impossible, mais où la riche grâce de Dieu et son glorieux salut peuvent le rencontrer dans sa profonde misère. Là où il ne lui est pas possible d'observer la loi, il peut confesser le Seigneur Jésus de sa bouche et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et c'est là le salut. Mais ce quiconque ne se borne pas aux Juifs. C'est pourquoi l'apôtre dit « Il n'y a pas de différence de Juifs et de Grecs ». Sous la loi, il y avait la plus grande différence possible, une ligne de démarcation nettement tracée entre Juifs et nations. Mais cette ligne est effacée pour deux raisons. Premièrement, parce que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, Romains 3, verset 23. Et secondement, parce que le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, Romains 10, verset 12 et 13. Croire et confesser. Retenons bien ces expressions. Cela suppose, il va sans dire, que l'âme est vraie et le cœur engagé avec Dieu. Il veut des réalités. Il ne s'agit pas d'avoir certaines notions dans sa tête, mais ce qu'il faut, c'est une foi opérée dans le cœur par le Saint-Esprit, une foi vivante qui unit l'âme à Christ d'une manière divine par un lien éternel. Alors vient la confession de la bouche, ce qui est de toute importance. Quelqu'un pourrait dire « Je crois en mon cœur, mais je ne fais pas étalage de ma religion. Je garde mes sentiments pour moi, c'est une affaire entre mon âme et Dieu. » Un tel raisonnement a l'air très plausible, mais à la lumière de Romains 10, verset 9, il ne tient pas. Il faut qu'il y ait une confession de la bouche. Plusieurs qui voudraient être sauvés par Christ reculent devant l'opprobre qu'attirerait sur eux la confession de son nom. Ils désirent bien aller au ciel quand ils mourront, mais ils reculent devant la pensée d'être identifiés avec un Christ rejeté. Or, Dieu ne veut pas cela. Il attend des siens une vraie, sincère et énergique confession de Christ à la face d'un monde hostile. Christ, notre Seigneur, attend aussi cette confession. Il déclare que quiconque le confessera devant les hommes, il le confessera devant les anges de Dieu, mais que quiconque le reniera devant les hommes, il le reniera devant les anges de Dieu. On voit dans le brigand sur la croix les deux grands principes de la vraie foi qui sauve. Il crut dans son cœur et confessa de sa bouche. La vie est le bonheur, la mort est le malheur. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur. Verset 15. Ainsi en est-il toujours dans le gouvernement de Dieu. Les deux choses sont inséparablement liées. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, à ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, la vie éternelle. Mais à ceux qui sont contentieux et qui désobéissent à la vérité, et obéissent à l'iniquité, la colère et l'indignation, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, et du juif premièrement, et du grec, mais gloire et honneur et paix à tout homme qui fait le bien, et au juif premièrement, et au grec, car il n'y a pas d'acception de personne auprès de Dieu. Romains 2, versets 6 à 11. L'apôtre, dans ce passage, n'entre pas dans la question de savoir si l'homme a ou n'a pas la puissance pour arriver à la gloire. Il constate simplement un fait général, applicable à tous les temps, dans toutes les dispensations. Il sera toujours vrai que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Puissions-nous l'avoir toujours présent à l'esprit? On dira peut-être, les chrétiens ne sont-ils pas sous la grâce? Oui, Dieu en soit loué. Mais cela n'affaiblit en rien ce grand principe. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur, en ce que je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements et ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne, et que tu n'écoutes pas, et que tu te laisses séduire, et que tu te prosternes devant d'autres dieux et que tu les serves, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement, et que vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre, où, en passant le Jourdain, vous entrez afin de la posséder. J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta semence, en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Car c'est là ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de leur donner. Versets 15 à 20. Rien de plus solennel que ce dernier appel à la congrégation, en pleine harmonie avec le ton et le caractère du livre entier du Deutéronome. Livre si remarquable d'un bout à l'autre par les puissantes exhortations qu'il renferme. Nous n'avons rien de si émouvant dans les autres sections du Pentateuque. Nous l'avons déjà dit, chaque livre a son but spécial, son objet et son caractère distinct. Le Deutéronome, du commencement à la fin, est le livre de l'exhortation. Il ramène constamment à la parole de Dieu. Il appelle le peuple de Dieu à une obéissance entière du cœur, fondée sur une relation connue, sur des privilèges dont on jouit.